Amis des corbeaux et des autres bestioles qui croassent, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Attire-d'aile, la première émission qui lie ornithologie, littérature et philosophie. Dans cet épisode, je vous propose d'écouter une conférence sur les corvidés de Bruno Martelenc. Mais avant ça, je vais vous raconter comment je me suis retrouvée un random mardi soir à la Maison de l'Environnement, au milieu de personnes dont la passion est de compter les hiboux grand-ducs et de construire des mares. En vrai, c'est trop cool et je pense que ça va devenir mon nouvel objectif de vie. Vous allez voir, l'histoire est marrante. J'étais en train de faire des recherches sur les corbeaux pour le premier épisode d'Attire-d'aile, qui parle de la symbolique de cet oiseau dans diverses cultures et mythologies. Il est super d'ailleurs, allez le voir. Et à un moment, je me dis, tiens, il faudrait quand même que je me renseigne sur les associations d'ornithologie sur Lyon. Ça pourrait être intéressant, je pourrais organiser quelque chose avec eux. Donc je tape juste Ornithologie Lyon dans mon moteur de recherche, et là, à ma plus grande surprise, je vois que la LPO du Rhône organise une conférence sur les corbeaux à deux pas de l'ENS, la veille du direct où je comptais parler du corbeau justement. Je ne savais pas encore ce que c'était la LPO, je n'avais encore jamais assisté à l'une de leurs réunions, mais il fallait absolument que j'aille voir ce que c'était. Moi qui ne suis pas superstitieuse, cette conférence m'est apparue comme un signe. Ni une ni deux, j'ai envoyé un mail aux organisateurices pour savoir si je pouvais venir enregistrer la conférence. Ils étaient d'accord, l'intervenant était d'accord, donc voilà. Tout a roulé, c'était trop chouette. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette association, donc la LPO, Ligue Française pour la Protection des Oiseaux, qui œuvre pour la recherche éthologique, la préservation des espaces naturels et la sensibilisation à la protection de la biodiversité. Concrètement, à la LPO du Rhône, les membres se réunissent tous les mois pour partager leurs expériences et faire des retours sur leurs actions. La fois où j'y étais, ils m'ont parlé de Faune France, qui est une base de données gratuite à laquelle tous les amateurs de naturalisme peuvent participer pour contribuer à la recherche. Ils ont également présenté divers projets de construction de mares, de permanence ornitho au parc de la Tête d'Or ou sur les berges du Rhône, d'ateliers de sensibilisation, etc. Ils se sont aussi concertés sur leur participation au Salon Prime Vert, qui rassemble une quarantaine d'associations écologistes et écologiques et alternatives de la région Aura. D'ailleurs, cet événement aura lieu le 20, 21 et 22 février à la Halle Tony Garnier. Il est gratuit pour les moins de 25 ans. Donc, si vous voulez y aller, c'est tout à fait possible. C'est gratuit, puis c'est une bonne idée de sortie ou de date si vous n'avez rien à faire ce week-end-là. Au-delà de toutes ces informations factuelles, il y avait une très bonne ambiance à cette réunion. Tout le monde pouvait prendre la parole pour parler de ses marottes du moment et les gens écoutaient avec beaucoup de bienveillance. Ça blaguait et ça rigolait beaucoup dans la salle. La même ambiance bonne enfance est d'ailleurs maintenue lors de la conférence, je pense que vous pourrez l'entendre. Elle était présentée par Bruno Martelenc, un ornithologue amateur passionné de corvidés. Le lien de son site sera d'ailleurs disponible en description si vous souhaitez le rencontrer et faire une formation avec lui. La conférence était super intéressante et pédagogique. Je ne savais pas en connaître si peu sur les corbeaux, finalement. On va commencer tout simplement par le fait que le terme corbeau, en fait, ne veut un peu rien dire. C'est un terme flou d'un point de vue scientifique qui ne renvoie à aucune espèce déterminée. En réalité, il y a la famille des corvidés qui comprend les corneilles noires, les corneilles mantelées, le jet des chênes, le casse-noix moucheté, la pie, le chouc à détour, le chocard à bec jaune, le crabe à bec rouge, le corbeau freux et enfin le big boss, le grand corbeau, Corbus corax, de son petit nom latin. Donc la liste est longue, n'hésitez pas à taper leur nom sur internet pour voir à quoi ressemblent tous ces petits bouts de choux. Et donc c'est là que j'ai découvert que les drôles de corneilles au poitrail et au dos gris, que personnellement j'appelais le corbeau pigeon, c'est vous dire mon degré de connaissance en la matière, eh bien ces oiseaux sont en réalité des corneilles mantelées. Voilà, on les trouve majoritairement en Europe orientale, là où en Europe occidentale c'est la corneille noire qui domine. J'ai aussi appris que les corbeaux sont extrêmement observateurs, qu'ils sont capables de résoudre des problèmes à cette étape et qu'ils ont le même degré de réflexion abstraite que les singes. Voilà, donc si vous voulez en apprendre davantage sur la danse des grands corbeaux et les facéties des corneilles, je vous laisse avec l'enregistrement de la conférence de Bruno Martelenc et nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode d'Attire-d'aile.
Bon, alors là, on est peut-être un peu nombreux pour jouer ce rôle-là. Quand on parle corbeau, à quoi ça fait penser? Allez, 10 témoignages. Quand on vous dit corbeau, 10 personnes les premières, vous pensez, vous associez quoi?
Hitchcock.
Lettre anonyme Hitchcock, ok.
Renard.
Renard et corbeau, ok.
Noir.
Sorcière, ok.
Cimetière.
Cimetière, d'accord.
Intelligence.
Ah, Levez-vous, madame. Intelligence. Bon, là, dans le tableau positif-négatif, voilà un élément plutôt positif. Jusqu'à présent, c'était plutôt connoté négatif.
Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie. On en reparlera.
Pourquoi ?
Ouais, et bien, juste, ça fait partie de la suite, des diapos suivants. Ok, donc globalement, c'est pour révéler qu'en principe, dans notre population française, les corbeaux n'ont pas une cote d'amour très très élevée. Il y a plutôt des associations d'images assez négatives, voilà, par rapport à ces oiseaux-là. C'est culturel, c'est chez nous, c'est ainsi. Alors, je sais qu'en attendant, il y a des gens qui m'ont parlé d'histoire avec des corbeaux. Qui est-ce qui a une histoire, une anecdote avec un corbeau dans la salle? Il y avait tout à l'heure plusieurs personnes même qui m'ont dit « Ah, blablabla... Bla, » bla, Ah ben oui, toi, t'as volé.
Oui.
Viens, viens.
Okay.
Oui, parce que quand je fais pas de l'ornithologie, il m'arrive d'être dans un planeur dans les Hautes-Alpes, à plus de 3000 mètres d'altitude du côté des écrins. Et on a croisé un gros oiseau en vol, donc le copilote me dit « C'est quoi ce rapace ?» Je lui dis « Ben non, c'est un grand corbeau qui est arrivé face à nous et il a fait un tonneau complet. » Un tonneau, je ne sais pas si vous connaissez la figure, en fait, il a fait « Vlon !» Il s'est retourné complètement, et en une seconde, donc avec un taux de rotation énorme. Et là, on était quand même à plus de 3000 d'altitude. Et donc, c'est toujours étonnant de rencontrer ces oiseaux qui font en plus des cabrioles face à nous. Je pense qu'il nous a pris pour un intrus, peut-être. Enfin, bon, voilà, c'était un moment sympa.
Parfait. Merci pour ce premier témoignage. D'autres témoignages de tranche de vie par rapport à ces oiseaux? Non? Oui, madame?
Bonjour. Moi, j'ai déjà vu un corbeau qui avait chippé une patte crue, je sais pas où, et qui l'a mise dans une flaque pour la ramollir et pour pouvoir la manger. Voilà. Et je me suis dit, ah, ces oiseaux sont vraiment très intelligents.
Merci.
Et nous, avec Elisabeth, du temps où les centres de soins n'existaient pas, au temps du Cora, on avait recueilli une jeune corneille qu'on a élevée, nourrie. Puis un jour, on part sur le terrain... en voiture avec les copains, et on nous avait dit il faut l'entraîner un peu à voler. Donc on a pris la corneille, hop, on l'a jetée en l'air, et puis à ce moment-là, il y a eu une bourrasque. La corneille a disparu. On l'a jamais revue.
Qui était-elle devenue?
Ouais. Allez savoir.
D'autres témoignages? Parce que, alors, quand on est en zone plus rurale, il y a énormément... moi j'ai mon oncle, mon père, etc., avait apprivoisé un corbeau, etc., dans les fermes. C'était... Oui, madame?
Moi j'en ai vu, c'était une corneille certainement, qui pendait dans un pré ou sur un poteau. J'ai dit mince, j'ai dit à mon père, on va s'arrêter, elle s'est pris les pieds et les pattes dans quelque chose, on va la sortir. Oui. Et en fait, pas du tout, c'était le paysan qui l'avait tué pour.
Ah oui, d'accord, tout à fait, oui, ça on les trouve souvent accrochés à des poteaux.
Je ne doutais pas que.
Oui, oui, oui. Non, parce que j'ai cru aussi que des fois, comme ce sont des animaux qui ont un certain humour et qui adorent le jeu, et ils savent se pendre à des branches et faire le mort. Voilà, donc j'ai cru que c'était cet aspect positif, mais du coup, oui, bien sûr, ils payent un lourd tribut quand même, ces oiseaux noirs. Hein. Bon, plein de choses, oui, madame.
Moi, j'avais un petit corbeau.
Ça vous en est pas, vous rapprochez, ouais. Parce que, tenez, regardez là.
Alors, bonjour. J'ai fait un petit sauvetage d'un jeune corbeau parce qu'il n'arrivait plus à voler. Donc, je l'ai pris, j'ai appelé le centre de l'hirondelle pour voir si je pouvais le ramener, etc. Et j'avais les parents, je pense que c'était les parents de ce petit corbeau qui tournaient autour. Et je me suis dit, mince, ils sont en train de penser que je suis en train de prendre leur bébé, de le tuer, alors que j'essaie de le sauver. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit dans leur tête, du coup, parce que je ne suis pas une experte des corbeaux. Mais voilà, je me suis dit...
On va peut-être en parler, Bruno, de
l'émancipation. Oui, bien sûr, l'émancipation. Mais dans une scène comme ça, très classique au mois de mai, globalement, il faut les laisser tranquilles. Il faut les monter un peu pour éviter que des chats viennent... les tuer. Mais sinon, les parents, ils suivent. Voilà, et du coup, ils vont alimenter. Mais par contre, le mettre en hauteur, si possible. Voilà.
Et là, il était vraiment blessé.
Il était blessé, oui, ok.
Et après, il a été réhabilité dans une...
Ouais, okay. D'accord, mais les parents, ils surveillent, effectivement. Ouais. Par contre, un oisillon blessé, voilà, ils sont ni médecin ni kiné, donc les parents, ils font ce qu'ils peuvent, mais effectivement, il était peut-être condamné, celui-là. Oui.
C'était une vétérinaire, je crois, qui avait récupéré un corbeau dont les pattes étaient... Il pouvait pas marcher. Enfin,
il pouvait pas marcher sur ses pattes.
Il avait les pattes complètement recourbées, donc elle lui faisait des petites chaussures en carton. Et elle lui attachait les doigts sur le carton pour lui... Et en fait, il arrivait à marcher comme ça, et il venait chercher ses chaussures quand elles étaient abîmées. Elle racontait qu'il venait...
D'accord.
Et elle, des années, elle lui refaisait...
Vous avez entendu derrière, donc, un vétérinaire qui a récupéré un corbeau qui avait des malformations aux pattes, et qui lui a fabriqué des petits chaussons, des petites chaussures.
Elle montrait comment c'était fait, en fait, c'était
vraiment... Ok, il n'y a pas beaucoup de vétos qui font ça. Hein. Chapeau pour ce véto. Après, on a beaucoup de pigeons de ville qui ont des pattes atrophiées, etc., qui se débrouillent avec. Chez nous, on a eu un passage d'un vautour fauve à une seule patte, unijambiste. Et il faisait sa vie. Il fait sa vie, c'est un adulte, donc il fait sa vie. Ceci dit, les deux pattes, c'est un handicapant quand même. Ouais. Après, un rapace, c'est mortel. Un corps vidé, son régime alimentaire, il permet même sans les pattes de survivre. Alors qu'un rapace qui est prédateur avec ses pattes, voilà. Et c'est pour ça que le vautour fauve n'étant pas... en premier prédateur, il peut survivre avec une seule patte aussi. Ok, bon, on va s'arrêter là parce qu'on a quand même le timing. Et là, vous n'avez pas fini de travailler. Oui, monsieur ?
Oui, alors j'en ai une dernière. J'ai du mal à raconter parce qu'elle est vraiment surprenante. J'étais dans un jardin public et il y avait un parterre de corneilles.
Oui.
Où j'avais le sentiment qu'il se passait quelque chose.
Oui.
Il y en a une qui se faisait engueuler, ou ouais. Plusieurs. Et on assistait à une espèce de tribunal.
Ah ouais.
Et j'avoue que c'était hallucinant.
C'était où ?
À Villeurbanne.
D'accord.
Très franchement, j'ai du mal à en parler, mais j'ai assisté à ça.
Oui, ce sont des oiseaux qui ont...
Une réalisation avec, on va dire, un groupe ou très peu d'oiseaux qui étaient un peu la risée des autres et qui se faisaient engueuler, proprement.
Très bien. Alors déjà, ça me renvoie quelque chose. C'est que moi, je ne suis pas politicien, je ne suis pas journaliste, je ne peux pas répondre à tout. Voilà, je ne peux pas passer du coq à l'âne et savoir tout sur tout. Je n'ai pas ce don-là. Et puis, d'une manière générale, il faut accepter que le vivant qui nous entoure, eh ben, on n'en connaît pas grand-chose. Voilà. Tout expérimenté après 40 ans, 50 ans, 60 ans, on ne connaît qu'une couche ultra fine du vivant qui nous entoure. On n'a pas le temps, notre organisation sociale fait que ben voilà, on doit bosser, on a des enfants, on ne peut pas passer 30 ans à observer un ver de terre à 3 mètres sous le sol, quoi. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Donc il y a quelques scientifiques, quelques fadas passionnés, il y en a dans la salle, okay, qui creusent un peu plus. Mais même si on creuse un peu plus, on ne connaît pas vraiment le vivant qui nous entoure. Ça, c'est, voilà, c'est une manière dont je perçois les choses aujourd'hui. Et du coup, ce qui se passait au sein de ce groupe de corneilles, eh ben, on n'a pas payé des universitaires ou des labos à faire des recherches sur ce cas de figure. Donc on n'en sait pas trop, on peut apporter des hypothèses après. Voilà, donc il faut prendre, et dans tout ce que je vais dire, il y a une grande part d'hypothèses, voilà, qui peuvent être contredites un jour ou l'autre. C'est... à ce niveau-là, c'est une démarche un peu scientifique, accepter que ce qu'on comprend à un moment donné peut être mis en cause. Voilà. Et là, ben, dans votre cas, je ne sais pas exactement, il aurait fallu l'observer moi-même. Alors, l'animal le plus intelligent. Bon, il ne faut pas regarder le titre. Hein. Habituellement, ce dont on entend parler,
chimpanzé.
Le poulpe. Le poulpe à la côte, oui, les cétacés, dauphins, ouais. Oui, gorille, les grands singes, quoi. Hein.
Le rat.
Ok, là on tourne autour des principaux, il y en a bien d'autres.
Les éléphants.
Perroquet.
Ah, perroquet il sort, éléphant il sort, dans les photos. Alors.
Pangolin.
Alors j'ai mis le pangolin parce qu'il a quand même failli attaquer l'immensité de l'humanité, donc c'est qu'il doit avoir des ressorts très très puissants, une organisation phénoménale. Mais sinon, moi, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, que je ne connais pas du tout, mais en Haute-Loire, c'est un département où il y a forte présence de ratons laveurs. Et le peu que je vois me fascine. J'ai l'impression qu'ils sont doués de beaucoup de choses. Je ne les connais pas, mais ça mériterait de se creuser. Et puis, en bas à gauche, le chien. Le chien, il n'est pas comme les autres des animaux plus ou moins sauvages. Moi, j'ai mis le cochon. C'est un hybride, lui. Le chien, c'est l'hybride entre l'humain et le loup. Ça fait 30 000 ans qu'il est avec nous. Et ils fusionnent. On fusionne complet, quoi. Donc, ils ont des formes d'intelligence tout à fait remarquables. Alors, tous les chiens ne se valent pas, comme tous les humains ne se valent pas. Mais ils ont quand même des capacités cognitives extraordinaires et une capacité à vivre avec nous de manière exceptionnelle. Bon, voilà. L'organisation sociale des loups est connue. C'est quand même... Il y a du potentiel aussi. Alors, quand on dit le sommet, ça ne veut pas dire qu'on est capable de trier, de se dire c'est celui-là le numéro un. Non. Globalement, on est en train de comprendre d'ailleurs au XXIe siècle que le vivant, c'est de l'intelligence. Après, ça veut dire qu'il faut qu'on re-questionne la notion d'intelligence. Là, vous m'aviez dit qu'il y avait une personne très intelligente qui était attendue ce soir. Dans l'assemblée. Et tu me l'as pas présenté. C'est toi.
C'est moi, c'était moi.
Ah voilà, ok. Bon, donc on est clair. Voilà, on a une hiérarchie entre nous. C'est pas facile à dire sur quel aspect tu es intelligent plus qu'un autre. Certainement sur certains aspects, peut-être pas sur tous les aspects. Des gens bien placés qui confirment qu'il y aurait quelques déficiences sur certains aspects. Alors, on connaît pour la plupart d'entre nous la notion de quotient intellectuel. Ça a été une référence en termes d'intelligence tout le XXe siècle. Donc tous ceux qui sont nés il y a un moment, et ben voilà, c'est quand on parlait intelligence, on associait globalement au QI, à l'intelligence d'une forme plutôt logico-mathématique d'intelligence. Ça veut dire qu'une population française, on la répartit sur une courbe de Gauss. Entre 85 et 115, c'est la norme. La plupart d'entre nous ce soir, on est là-dedans. Il y a peut-être des gens un petit peu en difficulté sur cette forme d'intelligence à moins de 85, ou d'autres un peu plus alertes, un peu plus rapides, à plus de 115. Et vous voyez que la population donc, se répartit un petit peu comme ça. Donc moi j'ai fait mes tests, hein. Toc. Moi je me pensais forcément un petit peu quand même, comme toi, quoi.
Ben, oui, ben.
Bon, ben non.
Déception.
Alors, depuis, il y a d'autres concepts sur l'intelligence. De temps en temps, dans les conférences, je rencontre des gens qui restent sur les définitions du XXe siècle, voire du XIXe, que l'intelligence, c'est quelque chose qui est lié à l'humain. Moi, je crois que c'est lié au vivant. Et un psychologue américain assez connu sur ces travaux-là, Ward Gardner, lui, par exemple, nous fait une proposition qu'on ne peut pas réduire. Il y avait un petit truc là. Je ne sais pas si ça fonctionne.
Si, au milieu.
Là. Au milieu. Hop. Voilà. Ouais. On ne peut pas réduire au QI. Les tests du QI sont souvent autour de ça. C'est cette forme d'intelligence. Une personnalité dans un parcours de vie, ben, on a besoin de plusieurs piliers pour arriver à faire sa vie, son parcours d'humain. Et il se propose. Voilà, ces différentes formes d'intelligence, et c'est là que, justement, visiblement, il y en a certaines, si tu creuses, tu vas t'apercevoir que tu défailles, comme moi d'ailleurs. Voilà. Et puis par contre, il y en a d'autres où, ben, voilà, on est à l'aise, on est plus ou moins à l'aise, plus ou moins, on a développé des connexions, plus ou moins, dans certains domaines. Pour bien s'en sortir dans la vie, ben, c'est pas forcément de briller complètement sur une ou deux intelligences. C'est plutôt d'être moyen un peu partout. Ça nous permet de nous adapter, ça nous permet de retomber sur nos pattes, voilà, et d'être probablement plus équilibré que quelqu'un qui brille complètement dans un domaine et qui défaille dans d'autres domaines. Aujourd'hui, on en est là un peu sur les propositions de l'intelligence. On a passé la semaine de la science 2025 sur la question intelligence au pluriel, alors évidemment avec l'arrivée et les débats sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc Là, j'ai un copain, c'est un Turquais. Il pilote 2000 personnes dans la haute finance de New York. Il a 6 secrétaires, son cerveau lui permet d'alimenter le travail de 6 secrétaires. On voit qu'il a besoin de secrétaires, en effet. Voilà. Donc, certes, il pilote 2000 personnes, il a 6 secrétaires, mais pour entrer sa valise dans le compartiment, il n'a pas forcément développé cette forme d'intelligence. C'est juste pour illustrer que, ben voilà, il ne brille pas dans tous les domaines. Alors, on va passer rapidement, parce que là, on est sur un public de connaisseurs, sur les corvidés. Quand on dit corbeau, c'est le nom générique. Tout de suite, tout le monde connaît à peu près. Il y a une dizaine d'espèces. Ça, c'est la petite pie. Le jet des chênes. Celui-là, le moins connu, le casse-noix moucheté, voilà, un oiseau de montagne. Et d'ailleurs, chez nous, à Boré, au pied du Mézin, entre Gerbier-des-Joncs et Mézin, on a la seule colonie de casse-noix mouchetée du Massif central. Voilà, donc c'est très curieux parce qu'elle s'est établie dans une période de réchauffement climatique et pourtant, ils se sont installés, adaptés à notre région. Le chouka des tours. Le chouka des tours et le casse-noix mouchetée vivent en colonie. Le jet et la pie, non. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas des regroupements à certaines périodes de l'année. La pie, le jet, le casse-noix nichent dans les arbres. Le chouka des tours peut vivre nicher dans des trous d'arbres, mais aussi dans des falaises et chouka des tours, donc des vieux bâtiments. Là, les deux qui se ressemblent, en bas à gauche, le chocard à bec jaune. Alors, là, il y a une petite confusion dans les termes. On va le revoir. Et crabe à bec rouge, très élégant, corneille noire et corneille mantelée. Quand j'étais, comme vu qu'elle est un témoignage tout à l'heure, quand j'étais gamin, j'ai récupéré un poussin, on disait un corbeau ou un merle, on ne savait pas avec ma maman, et puis des voisins qui étaient un peu plus érudits nous ont dit non, c'est une corneille. Très bien. Et puis, quelques mois après, on a rencontré des personnes encore plus érudites qui nous disaient non, c'était pas une corneille, c'est un chouka des tours. Voilà. Donc, au final, le chouka, ben non, mais il est en montagne. Ben non, parce que les montagnards, il y en a beaucoup qui appellent le chocard chouka. Le chouka, il est là. Le chocard, il est là. Quand vous allez dans les Alpes, dans les stations de sport d'hiver, c'est très probablement lui qui vient voir sur les balcons, station, les restes laissés par les touristes. Voilà, ça c'est les deux plus rares, le crabe à bec rouge, corneille et corneille mantelée. Les deux corbeaux, corbeau-freux, à gauche, qui vit en colonie, qui niche dans les arbres, et le grand corbeau, plus grand corvidé et plus grand passereau. Voilà. Et du coup, il niche en falaise, mais lui, il a une capacité de nicher un peu partout. Sauf qu'en France, il a réduit sa reproduction dans des falaises inaccessibles. Mais petit à petit, comme il se diffuse, il reprend ses effectifs, on va le revoir petit à petit dans des arbres, il y a des tas d'endroits dans le monde où il niche dans les arbres. Donc c'est possible pour lui. Si je fais marche arrière, les corneilles nichent plutôt dans les arbres, et les deux cousins, là, plutôt dans les falaises. Voilà, même carrément dans les falaises. Voilà, donc les corbeaux, les vrais corbeaux, corbeaux freux à gauche. Il y en a sur la... Il y a une colonie sur la place Bourse du Travail à Lyon, depuis des années. Quand j'ai débuté l'ornitho en vallée du Rhône, il y a plus de 50 ans, il fallait monter vers la région parisienne pour commencer à avoir des corbeaux freux. Donc, il a vraiment... Il étend son territoire vers le sud de la France, puisque... On était à Salon de Provence il n'y a pas très longtemps, mais en pleine ville, le Salon de Provence, c'est une nouvelle colonie de corbeaux freux. Donc vraiment, ils ont colonisé une grosse partie du territoire. Voilà donc une petite approche en termes de morphologie. Vous voyez qu'entre une pie qui fait 25 cm de corps, bon, elle a une grande queue, et puis un grand corbeau qui fait une soixantaine de centimètres, en poids, le jet des chênes, 170 grammes à plus d'un kilo nettement pour le grand corbeau, des envergures, pareil, voilà, c'est pas tous les mêmes oiseaux, ils ont des gabarits différents, ça permet de les reconnaître sur le terrain. Voilà une petite galerie de photos, le rapport, on va y revenir longuement, le rapport entre les corvidés et les rapaces. ont une buse variable. Les casse-noix dans son milieu, forêt froide, le joli chouka, les chocards, voilà, en groupe aussi, ça c'est dans le Vercors. Ça c'est en Bretagne, presqu'île de Crozon, dans le Finistère. On est sur des individus très sympathiques qui acceptent de se faire photographier sous tous les angles. Donc voilà le portrait du crabe à bec rouge. Les corneilles. Corneille à droite, mantelée. Corneille à gauche, corneille noire. Moi, je suis né en France, j'ai toujours vu des corneilles noires. Puis je suis allé en Corse, puis les corneilles, il y avait des corneilles mantelées. Je suis allé en Écosse, et des corneilles mantelées. Voilà. En définitif, la corneille la plus répandue, c'est la corneille mantelée. Mais pas en France, pas en Angleterre, pas en Espagne. Vous allez à Nice, eh ben, on est en limite de territoire. Il y a des incursions de corneilles italiennes qui sont des corneilles mantelées. En Corse, c'est la corneille mantelée. Et en Écosse et en Irlande, corneille mantelée aussi. Je ne suis pas expert, ça fait débat. Comment on arrive génétiquement à dissocier les deux espèces qui ont des comportements très très proches? Certes, il y a une robe qui est différente, donc ça peut suffire comme critère de distinction d'espèces. Mais pour le reste, c'est vraiment des oiseaux qui se ressemblent énormément par leur dimension et par leur comportement.
À Moscou aussi, j'en ai vu.
Et oui, voilà, tous ces régions-là, ça va être des corneilles mantelées. Ouais. On n'a pas l'habitude en France. Le corbeau freux, le grand corbeau. Alors, un détail sur le grand corbeau. Vous prenez un jeune grand corbeau, un poussin de grand corbeau, et vous l'élevez dans les déserts arides, froids. Alaska, Nord-Canada, Groenland, Scandinavie, Sibérie, etc., Kamchatka, eh bien, le poussin va s'adapter, il va pouvoir faire sa vie de grand corbeau, Corvus corax, le nom latin. Vous prenez le même poussin, vous le mettez dans des zones arides, chaudes, les déserts arides mexicains, les portes du Sahara, les portes du désert de Gobi, eh bien, la vallée de la mort aux États-Unis, une des espèces qui survit bien là-bas, c'est le grand corbeau. Donc, la même espèce biologique. Capacité d'adaptation. On le trouve, on l'a dit, dans les îles anglo-normandes, là, et puis en Angleterre, en Irlande, au ras de l'eau. Il y en a même dans le Finistère, sur des falaises côtières. Mais aussi, ben, on l'a vu tout à l'heure avec le témoignage à 3000 mètres dans les écrins, mais il monte à 5-6 000 mètres en Himalaya. Voilà. Donc, ras de l'eau, altitude zéro, 5-6 000 mètres. Tout ça pour dire qu'il y a des capacités d'adaptation exceptionnelles. Voilà. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Bon, ça, on va passer ce soir. C'est juste une toute petite remarque, c'est en termes d'intelligence. C'est que, voilà, il y a 340 millions d'années que nos branches, nous, humains, et eux, oiseaux, se sont séparés. Notre ancêtre commun a plus de 340 millions d'années. Alors, je ne mets pas ma main à couper, mais j'y étais pas il y a 340 millions d'années. C'est le résultat, effectivement, de travaux scientifiques. Alors, on dit les oiseaux, c'est les descendants des dinosaures. Non, ils ont les mêmes connexions, ils ont les mêmes ancêtres que les dinosaures. C'est pas forcément des descendants de dinosaures. Mais on fait un petit peu, vite fait, l'amalgame. Mais en tout cas, en 340 millions d'années, ben, il s'est passé des choses intéressantes sur le développement social et sur le développement cognitif de ces animaux-là. Alors, répondre à la question pourquoi, on va commencer à observer des tests en laboratoire. Alors, pourquoi il y a des tests en laboratoire? Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Tout à l'heure, Yves, tu parlais de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, pourquoi tu parles de Nouvelle-Calédonie?
Parce que des expériences ont été menées sur les corbeaux néo-calédoniens, en particulier concernant l'utilisation et la fabrication d'outils permettant de s'accaparer de la nourriture.
Voilà, tout à fait. Ça a lancé, ça a été un petit séisme dans le milieu des vrais scientifiques, des gros scientifiques, parce que c'est la première fois qu'on observait dans la nature un animal fabriquant un outil adapté à la situation. On avait observé des animaux utilisant des outils. Il y a un club un peu fermé, mais il y a pas mal d'espèces qui utilisent des outils. Par contre, fabriquer l'outil sur mesure, c'était une première et on ne s'attendait pas que ça vienne de, d'un oiseau. Et du coup, ben, depuis, il y a plusieurs labos dans le monde qui ont des corneilles de Nouvelle-Calédonie, qui font des tests, puis des corneilles noires, puis des grands corbeaux. Enfin voilà, il y a des corvidés qui sont retravaillés, sachant que dans les années 50, Conrad Lorenz, qui avait relancé l'éthologie, avait alerté dans ses travaux en disant « Attention, le chouka des tours, il y a un potentiel là. Il y a vraiment quelque chose. » Mais ça a été un peu abandonné par les scientifiques et les ornithologues. Mais avec cette, cette corneille de Nouvelle-Calédonie, ça a relancé l'intérêt sur ces espèces-là. Alors, de ce fait, il n'y a plus de corrélation entre intelligence et taille du cerveau. Ça ne fonctionne plus avec ces animaux-là, parce que l'intelligence d'un corvidé, enfin le cerveau d'un corvidé, c'est 2 grammes. Donc c'est rien. Simplement, c'est fait différemment, complètement différemment. On n'a pas la même biologie, on n'est pas mammifère. Forcément, un oiseau, il a des connexions qui lui permettent d'être extrêmement rapide de par sa biologie et son mouvement. Donc nous, on est vraiment un peu comme des limaces par rapport aux oiseaux. Ils se doivent d'être très très réactifs. Donc il faut décorréler aujourd'hui, et ça c'est une nouveauté 21e siècle, hein. C'est-à-dire jusqu'en 99 on corrélait l'intelligence à la taille du cerveau. C'est plus comme ça qu'il faut poser les questions, c'est plus complexe, il y a différentes formes d'organisation du cerveau. Donc il faut prendre les connaissances avec un peu d'humilité, voilà, on ne sait pas grand chose, j'en parlais en introduction. Alors, une première expérience. Excusez-moi. Alors, en labo, une fois que ça, j'ai foiré mon truc, après, j'espère que... Voilà, ça va partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étapes. 8 étapes pour accéder à la nourriture. Alors, les animaux, ils sont comme nous, hein, la première pyramide de Maslow, le premier besoin, il faut qu'on se nourrisse. Donc c'est à travers la nourriture qu'on peut révéler des comportements. Voilà la fameuse corneille de Nouvelle-Calédonie. Hop. Les tests qui sont faits par cette corneille ne sont pas faits, l'ingénieur, le scientifique crée des animations et la corneille on la laisse dedans et elle va se débrouiller. Il y a des répétitions. Nous, on n'apprend pas à compter, à parler, à écrire comme ça, toc. On vous met en plein cœur de Moscou, et ben, vous n'allez pas savoir parler forcément tout de suite. Voilà, il va falloir apprendre. Donc ça passe par l'apprentissage. Du coup, dans tous ces tests scientifiques, il y a des étapes d'apprentissage. Hein, ça ne se fait pas comme ça. Mais en très peu, et on reviendra sur le sujet. Donc, première étape, elle a récupéré la petite baguette et elle est allée vérifier quand même que cette petite baguette ne lui permettrait pas d'accéder à la nourriture tout de suite. Si elle pouvait économiser tout ce qu'elle est en train de faire maintenant. Puis, cette petite baguette, du coup, elle a pris les cailloux, elle les sort et elle les met dans une plaque en plexiglas. Donc elle mémorise les enchaînements d'actions. Elle se dit, ça n'a pas marché, c'est que, ok, il en manque, il n'y a pas besoin de la baguette, celui-là je l'avais sorti, je l'avais oublié. Et là, ça lui permet d'accéder à une grande baguette. Donc il faut de la persévérance. Et voilà, et là, ça lui permet... d'accéder. Alors, une stratégie en 8 étapes pour un animal, c'est pas mal, quoi. C'est même excellent.
Sauf qu'elle fabrique.
Voilà. D'autres formes de tests. Voilà. Alors, un tube avec de l'eau et un tube avec du sable. Elle se souvient que dans les tests, si elle mettait dans le tube avec du sable, ça ne va pas faire monter la viande. Du coup, elle cherche même pas à mettre sur le tube du sable. Laisse tomber. Et puis, elle choisit aussi des gros morceaux, parce que les gros morceaux, ça fait monter plus vite le niveau de l'eau. Alors là, moi, ça me fait penser aussi à la fontaine, avec la cigogne et le renard. Hein. Alors, il faut dire d'ailleurs que nous, on est en procès contre les descendants de la fontaine et d'Hitchcock, parce qu'ils prennent des corbeaux pour des choses qui ne nous plaisent pas du tout. Hop là, voilà. Donc, il est allé au plus rapide. Le tube avec du sable, ça l'intéresse pas. Il s'en souvient très rapidement que ça n'a pas d'action. Là, il a des formes. Pareil, la taille des dés, l'épaisseur, etc. Il faut que ça rentre, parce que si... Mais il y a des textures aussi. Donc, ils doivent connaître les textures. Là, par exemple, c'est un bout de polystyrène. Aucun intérêt. Donc, la texture polystyrène ne l'intéresse pas. Bon, des formes vides, ça fait pas avancer son truc, donc il prend des formes qui sont remplies. Vous voyez que les objets qui lui sont proposés, mais avec du vide à l'intérieur, ça va pas faire avancer, donc ça, pour lui, c'est très très facile. Là, c'est compliqué parce que à droite, il est plus haut et il est plus fin. Mais là, il s'est un peu trompé. Il faut qu'il trouve les cubes de bonne taille, quoi. Mais il a commencé là par se dire, ben l'autre c'est peut-être plus facile de manœuvrer. Donc ces scientifiques ont passé beaucoup de temps à tester ces oiseaux pour voir un peu leur appréhension de leur univers, de ce qui les entoure. La connaissance de leur environnement, les formes, les volumes, les matières.
Mais là, c'est plusieurs individus différents, c'est pas que toujours le même individu.
C'est pas toujours le même individu. Et ensuite, tous les individus n'ont pas les mêmes, comme nous, humains, on n'a pas tous les mêmes facultés. Donc il y a des oiseaux qui sont plus ou moins doués. Mais les scientifiques ont déjà rencontré ça avec les singes. C'est pareil, il y a des singes qui ont des capacités que d'autres n'ont pas. Donc il y en a un qui agit sur la nourriture et pas l'autre. Donc il vérifie, il a compris. Non, pas de souci, c'est pas ce qu'il faut. Il ne doit pas faire ça. Donc il va aller à l'opposé. Bon, bah, tout ça, c'est dans un cerveau de 2 grammes. Restez concentré. Voilà. Donc il multiplie les scientifiques dans des labos du monde, du monde entier, ont multiplié des tests qui leur permettent de se dire ben ils ont des capacités neuronales exceptionnelles. Alors, quelqu'un dans la salle est-il informaticien? On est dans une grande ville, il y a forcément des informaticiens là. Oui, très bien. Le concept de récursivité en algorithmique, en informatique, c'est quelque chose qui est très utilisé. C'est une organisation mentale. Par exemple, dans les nomenclatures, on fait appel à ça. C'est-à-dire qu'on fait un arbre, il y a le point 1, point 2, point 3. Okay. Le point 1, on le divise en 3 points. 1.1, 1.2, 1.3. Mais le 1.1, il est aussi divisé en 1.1.1.1 et 1.1.1.2. Voilà. Donc on crée des nomenclatures comme ça. Donc ça, ce sont des tests d'intelligence virtuelle, abstraite, pardon, qui sont testés sur les primates, les grands singes, et l'équipe de Tübingen, en Allemagne, s'est dit, on va tenter sur les corvidés. Voilà. Donc c'est assez des tests. Alors j'ai essayé de lire l'étude, j'ai traduit d'anglais en français. Faut avoir une formation pour être scientifique. Ils ont des esprits costauds quand même, les gars. Pour monter des schémas comme ça de tests, c'est des gens brillants. En tout cas, ils se sont aperçus qu'ils arrivaient au même degré de complexité abstraite, les corbeaux qu'ils ont testés, que les grands singes, les plus doués. Simplement, ils avaient 30% de tests en moins. C'est-à-dire qu'ils arrivent au même résultat le plus complexe qu'on a pu expérimenter auprès d'animaux, mais 30% plus vite. Et là, encore une fois, après l'observation de l'an 2000 avec la corneille de Nouvelle-Calédonie, là, ça passe encore un cap. On se dit, ah, ok. Et ben voilà, ils sont plus rapides que les grands singes, qui nous ressemblent à 98,5%. Hein, donc, c'est pas rien. Voilà toutes les approches du monde scientifique qui répondent à la question pourquoi ils sont maintenant au sommet de l'intelligence animale. Ça n'exclut pas ce qu'on disait tout à l'heure, que tous les autres animaux ont des formes d'intelligence plus ou moins élaborées, que les cétacés, c'est un univers à découvrir, que tout ce qui nous entoure reste à découvrir. En tout cas, il y a en ce moment une dynamique autour des corvidés et qui révèle des choses que Conrad Lorenz avait ressenties. Voilà. Alors, pour ma part, après justement mon adolescence, mes premiers corvidés et les lectures de Conrad Lorenz, j'ai pu observer un certain nombre de choses qui peuvent expliquer pourquoi ces oiseaux ont ces capacités cognitives exceptionnelles. Alors, déjà aussi, c'est un programme biologique étonnant. Je pense que c'est un équilibre absolu entre l'inné et l'acquis. Ils ont dans l'inné des instructions qui leur permettent de faire croître leur acquis. Et ça, c'est, je pense, un élément déterminant pour que ces animaux puissent s'adapter. Alors, ils ont dans leur inné une instruction, c'est la curiosité. Pour l'instant, on ne sait pas encore quels sont les gènes porteurs de la curiosité. Il y a des équipes scientifiques qui bossent sur le sujet. Visiblement, c'est assez complexe. C'est un ensemble de gènes qui permettent d'être curieux ou pas curieux. Ils ont l'instruction « aller vers ». Et dès qu'ils sont petits, eh ben, ils vont vers et ils vont découvrir. On va vous montrer des choses. Mais du coup, ça fait écho au test des matières et des formes faits par les scientifiques en laboratoire. Ils ont une connaissance des matières très rapidement et ils ont une instruction biologique qui leur dit va découvrir chaque matière, chaque couleur, chaque plante, chaque animal, chaque être vivant autour de toi, va vers. Voilà. Et ça c'est extraordinaire, vous verrez tout à l'heure en image. J'avais dit que là on rentrait dans le point un peu dur de la soirée, donc je vais faire un peu vite.
Non, tu as le temps.
D'autres clés. J'ai parlé de l'équilibre qui est très certainement à l'origine entre inné et acquis. Ils ouvrent des tas de portes et ils peuvent accumuler de l'acquis du coup. Mais il y a aussi une physionomie. Ce n'est pas des petits oiseaux, ce n'est pas des grands oiseaux. Ils ont peut-être une biologie d'équilibre, un point d'équilibre. On sait bien qu'un humain d'un mètre vingt, il est très handicapé dans plein de situations. Un humain de 2,40 m, il est aussi handicapé dans plein de situations. Voilà, donc il y a aussi des physiques, des physiologies qui leur permettent de s'adapter dans des tas de situations différentes, même si on a dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas tous les mêmes physiques, pas tous la même taille, mais ça reste pas ni des autruches, ni des oiseaux-mouches, hein, ça reste quand même des oiseaux moyens. Voilà. Et puis là, une clé importante, le régime alimentaire, ils sont omnivores. Omnivores, donc ils mangent un peu de tout, et du coup, ils ne sont pas en carence. Ils sont très rarement en carence. Quand il n'y a plus de graines, il y aura des insectes. S'il n'y a pas d'insectes, il y aura des charognes. Quand il n'y aura pas de charognes, il pourra y avoir des fruits. Voilà. S'il n'y a pas de fruits, peut-être qu'ils vont pêcher des poissons. Voilà. Donc, leur régime alimentaire, omnivore, leur permet d'avoir du carburant, de l'énergie, tout le temps. Tout le temps. Ce sont des oiseaux hyperactifs. Donc, des facultés cognitives, ça c'est des scientifiques aussi qui l'observent. Ils analysent, ils observent, ils réagissent avec une grande rapidité. Bon, ça c'est un concept qu'il faut que je creuse un peu. Voilà. Avec l'hyperactivité, du fait de leur régime alimentaire et de leur accès à la nourriture, plutôt facile, eh ben, ils sont toujours en apprentissage, ils sont toujours dans l'action. Vous prenez deux oiseaux qui ont les mêmes gabarits, une buse variable et un grand corbeau, 1 kg, 1 kg 2, 1,30 m d'envergure, sur un déroulé d'une journée, ils n'ont pas les mêmes activités. Voilà. Par exemple, un jour de grande pluie, ben, les buses elles attendent que le temps se mette au beau pour rebouger un peu. Ben, s'il y a de la nourriture, le corbeau il y va direct. Bon, la buse elle peut y aller si elle a vraiment la dalle, mais voilà. Du matin au soir, les corvidés sont hyperactifs. Et du coup, en étant hyperactifs, ils multiplient leurs expériences. Et voilà, si moi je fais dans ma vie 3 expériences par jour pendant que mon frère fait 10 expériences par jour, au bout de 10 ans, il aura vécu des choses beaucoup plus, et il aura pu comprendre des choses que moi avec 3 expériences par jour, parce que je suis un poète, parce que je suis un rêveur, mais que, eh ben voilà, ça, on n'a pas le même, le même apprentissage. Donc le régime alimentaire, c'est l'hyperactivité, donc c'est une vitesse d'apprentissage et d'expérience. Très grande mémoire, incroyable. Bon, j'ai fait un test, je me cache dans un buisson, en pleine forêt, un territoire d'un grand corbeau, 4 millions d'arbres, j'ai tous compté, j'ai mis un numéro sur chaque arbre, j'ai fait une statistique de population d'arbres moyens sur le secteur avec des zones de pâturage, toujours est-il qu'il y a à peu près 4 millions d'arbres. Eh bien, il ne se passe pas 30 minutes sans que je sois repéré. Ce n'est pas moi qui suis repéré, c'est mon filet de camouflage dans le truc. Voilà. Ils font tout le temps le tour de leur territoire et ils vont avoir une mémoire jusqu'à mémoriser 4 millions d'objets et se dire, tiens, il y a un autre truc qui s'est rajouté là, c'est quoi ça? Et du coup, ils viennent tourner autour. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres ornithologues dans le coin qui ont pu vivre ça, je pense, leur capacité de repérage qui sont, et du coup, en lien avec leur mémoire. Relations sociales très développées, on a eu une question tout à l'heure, enfin, auquel je n'ai pas su répondre, sur ces corneilles à Villeurbanne. En tout cas, ils ont la maîtrise du fait de leurs apprentissages à répétition, ils arrivent à maîtriser le concept de cause à effet. Et ça, c'est pour l'intelligence humaine, c'est essentiel, mais pour les animaux qui maîtrisent ça, c'est essentiel. Ça veut dire que un petit grand corbeau d'un mètre trente d'envergure, d'un kilo deux, il va aller titiller le faucon pèlerin qui est deux fois plus rapide, voire plus, parce que, alors je ne parle pas des jeunes, les jeunes grands corbeaux de l'année, eux ils s'amusent à faire comme les adultes, et des fois ils peuvent, au prix de leur vie, parce qu'ils font aussi ça avec l'aigle royal, qui est aussi très puissant et très rapide. Mais un grand corbeau adulte, à 3 ans, il a eu toutes les expériences de vie qui lui permettent de comprendre la gestuelle de son entourage et de ses ennemis, et d'anticiper en permanence. Donc, l'aigle royal est évidemment bien plus puissant qu'un grand corbeau, le faucon pèlerin est évidemment bien plus rapide que le grand corbeau, mais résultat des courses, il ne se fait pas choper le grand corbeau, quoi. Voilà. Parce qu'il est dans le phénomène de cause à effet. Et ça veut dire qu'il est en capacité de décrypter son environnement, de comprendre les logiques qui l'entourent. Et ça, c'est vraiment plus marqué qu'avec la plupart des autres espèces animales. Bon, ce sont des généralistes et qui, du coup, sont bien adaptés par rapport à d'autres oiseaux ou d'autres animaux qui sont des spécialistes, évidemment. Voilà, voilà. J'ai pu observer, contrairement aux écrits, que, l'apprentissage parental n'existe quasi pas. Donc, il y a ponte de l'œuf, il y a élevage des poussins, il y a accompagnement pendant 2 mois, juin, juillet, août, mettons, 3 mois, avec les parents, mais il n'y a pas de transmission d'apprentissage réel. Ça ne veut pas dire que les jeunes n'observent pas le comportement de leurs parents. Ils les observent comme nous tous, on apprend aussi par mimétisme. Donc c'est plus dans leur code biologique, je reviens là-dessus, ils sont déjà équipés. Ça veut dire que un corbeau qui a été lâché très rapidement, il a des chances, un corbeau, un corvidé, a beaucoup de chances de se débrouiller. Parce qu'il maîtrise la causalité, parce qu'il a cette orientation, cette instruction qui lui dit « va vers ». Et du coup, ils vont constamment découvrir des trucs, et très rapidement, s'il n'y a pas eu l'apprentissage des parents, c'est pas bien grave, ils vont suppléer avec leur programme biologique qui les accompagne vers la rencontre de la nourriture, la rencontre des partenaires et la rencontre du vivant qui les entoure.